Troisième et dernier volet de notre série sur la préparation du baccalauréat d'histoire 2019. Dernier volet de notre série car demain, la messe de l'Ascension prendra la place de la fabrique de l'histoire et des chemins de la philosophie. Lundi, nous avons préparé le chapitre « Les États-Unis et le monde ». Hier, socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Et aujourd'hui, comme lors des deux précédentes émissions, nous vous proposerons jusqu'à 9h30 un documentaire de 20 minutes conçu par Catherine Decopé, réalisé par Thomas Duterre à partir d'une photographie d'histoire. La photo, ce matin, c'est celle qui est devenue un symbole de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Ici, on noie les Algériens. L'historien Vincent Lemire, qui a mené une enquête sur cette photographie, nous racontera son histoire à rebondissement. Puis à 9h30, Joseph Visser, professeur d'histoire au lycée Blaise Sandrard de Noisy-le-Sec, en présence de quelques-uns de ses élèves, nous proposera un plan de composition sur le thème « L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie ». Mais tout de suite, le documentaire pour commencer.
Petite précision, il y a 40 ans, je ne m'appelais pas encore Alexis Violet. Alexis Violet, c'est mon nom de plume. Je m'appelle Jean-Michel Mention, de naissance. Et quand on a appris ce qui s'était passé le 17 octobre, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir, marquer le coup. Alors ça a été assez long, hein, parce que dans la discussion, tout le monde était d'accord, mais on n'arrivait jamais à être assez nombreux pour le faire en toute sécurité. Et un jour j'en ai eu marre, enfin une nuit plutôt j'en ai eu marre, on était quatre, et j'ai dit on y va.
France Culture, le 23 juin 2004.
Nous avons fait un premier bombage sous le quai des Orfèvres, sur le quai directement. On a marché le long des quais pour trouver un espace suffisamment large pour mettre cette inscription, qui est quand même assez longue, et on est arrivé ici, devant l'Institut. Moi, mon quartier, c'était Saint-Germain, mais la Seine... C'était notre frontière, notre rivière et notre frontière. Et le pont Saint-Michel, c'est quand même de là qu'ils ont jeté les gars.
Photo du graffito « Ici on noie les Algériens », prise par Jean Texier à Paris en novembre 1961.
Alors c'est une photographie qui est de format horizontal, en mode paysage comme on dit. En tout cas c'est le tirage qu'on a sous les yeux. Et en fait on voit presque rien sur cette photo, il n'y a personne. On voit seulement un slogan qui barre la photographie horizontalement. Ici on noie les Algériens. Et puis en arrière-plan des arbres, sur le côté gauche un très grand bâtiment, le musée du Louvre. Et puis, un petit peu plus vers la droite, le clocher bien reconnaissable de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et donc, juste à côté de la mairie du premier. Donc, on est bien rive gauche, à Paris. Et puis, il y a quelque chose qui est curieux dans cette photographie, c'est qu'il y a un lampadaire tout à fait parisien. Il y a une boîte de bouquinistes sur la droite. Mais ces lampadaires sont affublés de 12 projecteurs qui éclaire quelque chose qui est derrière nous. Et donc, là, il faudrait aller sur place. Et si on allait sur place, on se rendrait compte que ces projecteurs, ils éclairent la coupole de l'Institut, l'Académie française. Donc, on est en fait à quelques mètres du pont des Arts, de la passerelle des Arts, rive gauche, on regarde vers la Seine. Et donc, on a ce slogan horizontalement écrit à la peinture noire. « Ici, on noie les Algériens ».
Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris.
Interactualité, 18 octobre 61, 7h15.
Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants, les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. Une douzaine de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et un officier de police blessés également. soulignant toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour. Voilà pourquoi dans les bureaux, dans les usines, on s'interrogeait mutuellement ce matin. Alors, comment ça s'est passé dans votre quartier? Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire à votre avis? Et encore, est-ce que ça va devenir ici comme de l'autre côté? L'autre côté de la Méditerranée naturellement. Et ces questions n'ont rien de surprenant. Il est seulement regrettable qu'on en arrive à les poser.
Cette photo, aujourd'hui, est souvent utilisée pour symboliser la mémoire du 17 octobre 1961. Est-ce que vous pouvez rappeler les faits de ce 17 octobre 1961 ?
Alors, le 17 octobre 1961, on est pendant les négociations qui vont aboutir aux accords d'Évian. On est en pleine guerre d'Algérie, et donc de façon un peu paradoxale, en fait, c'est une situation très très tendue à Paris, puisque le FLN mobilise assez largement les civils algériens. Parisien. Et en parallèle, la police parisienne et le préfet Papon, qui dirige la préfecture de police à l'époque, a imposé un couvre-feu très strict aux populations algériennes, populations civiles. Et le 17 octobre 1961 est organisée une manifestation pacifique, tous les témoignages concordent pour dire que les manifestants sont désarmés, qui converge vers le centre de Paris, vers les grands boulevards, vers l'Opéra, vers la place Saint-Michel, en particulier depuis tous les grands bidonvilles de l'ouest parisien, notamment Nanterre. Et cette manifestation va être effroyablement réprimée avec des ordres qui ont été donnés assez tôt dans la journée par le préfet Papon. Et Jean-Luc Ainaudi, qui est l'historien qui s'est le plus penché sur cette histoire-là, estime qu'on a entre 150 et 200 morts dans Paris. Donc, c'est la répression la plus sanglante dans la capitale depuis des décennies. En fait, c'est le plus grand nombre de morts civiles depuis la libération de Paris. Donc, c'est un événement très, très lourd sur le plan historique, mais qui a été, en fait, largement oblitéré par la mémoire de Charonne, qui se passe quelques mois plus tard, encore plus près des accords d'Évian, où là, il y a 8 morts, j'allais dire 8 morts seulement. Mais c'était une manifestation organisée par le Parti communiste et c'est vrai qu'ensuite, après Charonne, il y a eu une mobilisation très 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 forte, notamment du Parti communiste français. Et donc c'est vrai que les 8 morts de Charonne ont très largement, pendant très très longtemps, recouvert la mémoire des plusieurs dizaines de noyés et de matraqués morts algériens du 17 octobre.
Dans les archives de 1961, on trouve déjà des traces de cette oblitération à venir. Au lendemain du 17 octobre, dans les journaux radiodiffusés, le compte-rendu des journalistes semble se faire l'écho d'un discours gouvernemental qui ne vise qu'à discréditer le FLN.
Les musulmans sont très nombreux chez nous. Il y a en France environ 320 000 travailleurs musulmans, auxquels s'ajoutent quelques 100 000 femmes et enfants. Mais la région parisienne à elle seule compte plus de 140 000 travailleurs musulmans. Or, même si 20 ou 25 000 d'entre eux ont répondu au mot d'ordre, la proportion, vous le voyez, est mince. Cela mérite d'être noté. Cela signifie que si tout à l'heure vous croisez un musulman sur votre chemin, ça ne sera pas forcément un suspect, un FLN, un ex ou un futur manifestant, bref, quelqu'un qui vous est hostile. Rien ne serait plus néfaste, rien ne servirait davantage sans doute les extrémistes des deux bords, que de laisser s'implanter cette idée dans la population. Car il est évident que des meneurs FLN ont transformé hier soir en violence ce qui, à l'origine, ne devait être qu'une manifestation silencieuse et pacifique. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous signaler que, selon certaines informations parvenues au ministère de l'Intérieur, et dont se fait l'écho l'agence centrale de presse, de nouvelles manifestations de musulmans algériens seraient à craindre pour ce soir. Elles seraient cette fois le fait de petits commandos de choc, dit-on, mais des mesures doivent être prises pour éviter le retour des désordres d'hier soir.
Avec Yann Potin, Vincent Lemire, vous avez fait une enquête historique pour retracer l'histoire de cette photo. Quand est-ce que cette photo est publiée, Vincent Lemire ?
La photographie est publiée pour la première fois en 1985 dans le journal L'Humanité. En page intérieure d'abord, puis en 1986... en couverture. pratiquement 25 ans après les événements. Ça a été un des points de départ de l'enquête, c'est pourquoi est-ce que cette photographie, qui est aujourd'hui célébrissime, hein, qui fait des affiches de films, de documentaires, des couvertures de livres, qu'on voit sur des tracts, sur des autocollants militants, enfin sur énormément de supports, comment ça se fait que cette photographie avait disparu pendant 25 ans et puis est ressortie en 1985? Mais la solution, justement, elle n'est pas du côté des auteurs du graffito, mais elle est du côté des auteurs de la photographie, du côté des photographes. C'est en se tournant vers la photographie, et en particulier vers son verso, qu'on a commencé à accumuler des micro-indices. Si on retourne la photographie, enfin un des tirages anciens de la photographie, on pouvait lire HQ. Alors HQ, aujourd'hui on pourrait penser que c'est haute qualité ou high quality, ou enfin voilà que c'est un tirage, mais pas du tout. HQ c'était Humanité Quotidien. Parce que dans le fond d'archives on l'a retrouvé, il y avait d'autres tirages qui portaient la mention HD, Humanité Dimanche. Donc on savait qu'on était du côté de l'Humanité, et en fait on s'est ensuite rapproché du service des correspondants photographes de l'Humanité, qui étaient des correspondants bénévoles mais très bien formés du journal L'Humanité, militants. Et en fait, ce réseau des correspondants a réussi à nous retrouver, à identifier le photographe, donc Jean Texier, qui était à l'époque un apprenti photographe au journal L'Avant-Garde, qui était le journal des jeunesses communistes. Et pour la petite histoire, ou la grande histoire aussi, il était accompagné ce jour-là de Claude Angéli, qui est ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, qui est toujours un des rédacteurs célèbres du Canard Enchaîné, qui était aussi militant à la JC et à L'Avant-Garde à l'époque. Et en fait, ils sont passés tous les deux, Claude Angéli d'abord, puis Jean Texier, sur les quais, en voiture, dans une deux chevaux. Ils ont vu ce graffito, ils ont vu des policiers à côté du graffito. Alors, il faut dire tout de suite aux auditeurs que, de part et d'autre de cette photographie, il y a des policiers qu'on ne voit pas, qui ne sont pas photographiés. Et puis, ils sont revenus avec un appareil Rolleiflex, à visée verticale. Ils sont descendus très vite de la voiture, et sans doute en quelques secondes, ils ont réalisé ce cliché qui va devenir historique, mais qui a été en fait réalisé vraiment dans l'urgence, et surtout par des gens qui n'étaient pas ceux qui avaient réalisé le graffito. La photographie, en fait, elle n'est pas publiée d'abord, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui suivent. Elle reste dans des cartons. Sans doute que ce qui comptait, quand on était très proche de l'événement, c'était de documenter l'événement lui-même. Et là, c'est les très fameuses photographies d'Élie Kagan qui étaient sur les grands boulevards le 17 octobre au soir. Et donc, c'est les photographies qu'on connaît, hein, des Algériens ensanglantés, dans le métro, métro Bonne Nouvelle, métro Opéra. Richelieu de Rouault, donc ces Algériens qui se tiennent la main, qui sont affalés par terre, des policiers en action, tout ça c'est les photographies d'Élie Kagan. Donc ce qu'il fallait sans doute dans les semaines et les mois qui suivaient le massacre, c'était documenter le massacre lui-même. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, près de 25 ans après, ce qu'il faut documenter, c'est la mémoire de l'événement. Et c'est la dénonciation précoce et presque immédiate de l'événement.
Vincent Lemire, comment expliquer que cette photo réapparaît 24 ans plus tard ?
On est le 18 octobre 1985, puis le 18 octobre 1986. Et en fait, le 17 octobre, c'est la journée de la mémoire de l'immigration. Donc, pour le journal L'Humanité, qui porte hein, ce militantisme et cette mémoire-là, il est important de rappeler que des militants ont dénoncé précocement le massacre. Ce qui est assez curieux et un peu contre-intuitif, c'est que, comme cette photographie a été réalisée par Jean Texier, qui était ensuite un photographe de l'Humanité, comme elle a été conservée dans les locaux de l'Humanité, comme elle a été publiée pour la première fois par l'Humanité, presque par capillarité, on en vient à penser que c'est un slogan tracé par des militants communistes. Or, pas du tout. C'est un slogan qui a été tracé par des militants situationnistes. Et on sait que les situationnistes n'étaient pas très, très copains avec les communistes. Alors, les situationnistes, c'est un mouvement politique, artistique, esthétique, donc qui gravitait beaucoup autour de la personnalité charismatique de Guy Debord. Alors, donc le premier, c'est effectivement Alexis Violet, alias Jean-Michel Mention, qui est décédé aujourd'hui, mais qu'on avait longuement interrogé. Et tous les récits concordaient pour rappeler que Alexis Violet, Jean-Michel Mention, avait réalisé ces graffitis, cette série de graffitis, avec Jean-Marie Binoche, père de l'actrice, Benoît Rey, militant anticolonialiste à l'époque, Arthur Adamoff, donc le célèbre dramaturge, qui apparemment n'était pas dans les rues, mais qui était bien calé dans son siège au bar le Old Navy, qui était un peu le QG apparemment de la bande des situationnistes du quartier Seine-Bussy. Et Arthur Adamoff aurait soufflé sans doute ce slogan, encore une fois très efficace. Donc il faut aussi se déplacer dans ce contexte-là et se rendre compte que sortir la nuit pour tracer ces graffitis en plein Paris, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de la préfecture de police, c'était risqué. Et ça aurait pu très très mal finir. Donc c'est pas une blague de potaches qui sortent d'une soirée arrosée du Old Navy pour aller tracer un graffito au nez à la barbe des CRS.
À cette époque, j'avais exactement 25-26 ans. J'étais là, à Boulevard Saint-Michel. Ils ont massacré les Algériens, hommes et femmes, enfants.
Salah, manifestant du 17 octobre 1961, France Inter, 2012.
Moi, personnellement, j'étais blessé, j'avais une blessure ici. Ben, j'ai eu de la chance, j'ai couru. Mais le lendemain, comme il y avait le couvre-feu, les Algériens ne doivent pas sortir à partir de 20h. Moi, je suis sorti de l'hôtel, c'est pour provisionner en cigarette. Devant moi, à la sortie, à la rue La Huchette, là, je trouve devant moi quatre policiers en civil. Ils m'ont interpellé. Alors, il y avait un monsieur parmi les quatre policiers. Il y a quelqu'un qui dit à ses camarades, on va le jeter dans la Seine. J'ai dit, monsieur, si vous me jetez dans la Seine, moi, je sais nager. Il y avait un autre policier qui dit, ah bon, vous savez nager? Je dis oui. Il m'a dit, on va employer d'autres méthodes. Et m'ont amené au commissariat, au Panthéon, et m'ont massacré. Après avoir, ils ont vérifié mes papiers, comme quoi je travaille, honnête. À cette époque, je travaillais chez Renault, et m'ont relâché.
Vincent Lemire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la reconnaissance du 17 octobre 1961 et de sa mémoire ?
Alors, on revient en fait là au tout début de l'enquête, puisque cette enquête a démarré en octobre 2001, donc au moment du 40e anniversaire du massacre. Le maire de Paris, à l'époque, Bertrand Delanoë, avait décidé de faire poser une plaque, que les auditeurs peuvent toujours aller voir, à l'angle du pont Saint-Michel, face à la préfecture de police de Paris, une plaque qui commémore le massacre des Algériens qui étaient venus manifester pacifiquement, dit la plaque, le 17 octobre 61. Donc on en est là, dans le temps d'une reconnaissance par la municipalité parisienne du massacre du 17 octobre 1961. Il faut savoir que la plaque que j'ai vue inaugurée, elle a été brisée plusieurs fois. Elle était d'abord en pierre, enfin comme les plaques qu'on voit communément dans Paris, et donc elle a été reposée. Et puis finalement, donc ça veut dire qu'il y avait aussi des militants d'une contre-mémoire du 17 octobre qui ne voulaient pas que ce massacre soit rappelé. Et finalement, elle a été gravée sur une plaque en bronze, si mes souvenirs sont bons, qui est toujours celle qu'on peut voir aujourd'hui, qui est scellée carrément dans la pierre, dans le parapet du pont Saint-Michel. Elle est parfois recouverte de peinture, mais ça, donc elle est nettoyée assez simplement. Mais c'est vrai que le fait que cette plaque a été posée par le maire de Paris, suite à un vote du Conseil de Paris, donc de la municipalité des élus parisiens, et qu'elle a été posée juste en face, à une quinzaine de mètres, une dizaine de mètres de la préfecture de police de Paris, c'était évidemment, du point de vue de la municipalité, une façon de souligner la responsabilité éminente de la préfecture de police de Paris, du préfet de police Maurice Papon, et donc de l'État, dans ce massacre. Aujourd'hui, les militants dénoncent toujours un massacre d'État, et donc demandent la reconnaissance par la République, par le gouvernement, par les instances gouvernementales, par l'État, la responsabilité de ce massacre.
À l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir. Nous avons sur place un témoin, Tommy Franklin, qui se trouve à la gare du Nord.
Je me trouve avec la voiture émetteur RTF dans une des cours intérieures de la gare du Nord, où progressivement, d'importantes forces de police prennent place ces forces de police qui arrivent en camion et en cars normaux. Par camion, j'entends des camions bâchés. Il y a également d'assez importantes forces de gendarmerie qui sont descendues de cars ici il y a quelques instants. Cependant, tout est extrêmement calme et surtout, il n'y a aucun musulman en vue.
Un an après l'apposition par la ville de Paris d'une plaque en mémoire des victimes, la reconnaissance des faits par l'État intervient à l'initiative de François Hollande, alors président de la République. Dans un communiqué du 18 octobre 2012, il écrit les phrases suivantes. Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Si cette reconnaissance constitue un pas de plus dans le devoir de mémoire, elle reste incomplète. Le texte laisse de côté la question de la responsabilité des faits commis, a fortiori celle de l'État et de sa police.
Voilà donc pour ce troisième documentaire de notre série autour du baccalauréat à partir d'une photographie. Lundi, c'était Migrant Mothers de Dorothée Lange. Hier, c'était une photographie de Willy Brandt agenouillé à Varsovie. Et aujourd'hui, donc, la photographie et son histoire assez rocambolesque donc de Ici, on noie les Algériens, un documentaire de Catherine Decopé et Thomas Duterre. Et remercions Vincent Lemire pour son analyse et son enquête. Et l'actualité fait bien les choses puisque Vincent Lemire, aujourd'hui, soutient son habilitation à diriger des recherches. On lui souhaite une bonne soutenance autour du, en particulier d'un mémoire inédit sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem entre 1187 et 1967. Bonjour à vous, Joseph Visser. Merci.
Bonjour.
D'être venu avec certains de vos élèves donc du lycée Olam de Gouges de Noisy-le-Sec où vous enseignez donc qui sont dans ce même studio et qui vont écouter votre plan alors de composition, vos plans de dissertation autour du thème l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, question rituelle que je pose à chaque fois que nous faisons une émission à partir de ces questions du baccalauréat. C'est un sujet qui intéresse les élèves, c'est un sujet qui est difficile à traiter.
Alors s'il intéresse les élèves, c'est probablement eux les mieux à même d'y répondre, mais je pense que oui, puisqu'il est connecté directement à l'actualité. Par exemple, la reconnaissance par Emmanuel Macron en septembre 2018 de la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. Donc c'est facile de donner une actualité à ce sujet, de le connecter à une expérience pour eux qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et est-il difficile à traiter ? Je pense qu'il a une difficulté, c'est que ce n'est pas un sujet sur la guerre d'Algérie, mais qui demande d'en avoir quelques connaissances.
Théoriquement, ils ont connu, ils ont travaillé sur la guerre d'Algérie à d'autres moments de leur scolarité.
En première notamment, mais ça réclame quand même d'avoir des connaissances à ce sujet, qu'elles soient toujours un peu fraîches pour eux.
Oui, et donc c'est un sujet qu'on pourrait dire, même si le mot est parfois compliqué pour les élèves, d'historiographie, c'est-à-dire c'est l'écriture de l'histoire qu'on raconte et la relation entre l'écriture de l'histoire par les historiens et les mémoires portées par des associations, par des survivants, par les différents groupes qui ont participé de près ou de loin à la guerre d'Algérie.
Oui, c'est ce qui le rend justement intéressant, puisque contrairement à d'autres chapitres, en fait, c'est le seul. Hein, il invite à rentrer un peu dans les coulisses, en fait, de la fabrique de l'histoire, de voir comment travaillent les historiens, et ce qui, pour eux, est une chose qu'auparavant, on ne fait pas vraiment. On les incite parfois à réfléchir sur ce que c'est qu'une source, à travailler sur l'étude critique des sources de la même manière que le ferait un historien. Mais là, on peut développer avec eux ces exemples, donc je pense que ça a un intérêt tout particulier, quoi.
Alors, pour se corriger, ce plan de composition, vous l'avez composé de quelle manière ? Un plan avec une introduction, évidemment, et une conclusion, et combien de parties ?
Alors, un plan en trois parties et chronologique, parce que je pense que l'intérêt, la difficulté du sujet, c'est qu'il invite à examiner les mémoires en France et en Algérie. C'est un chapitre qui est au choix à traiter soit avec les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale, soit de la guerre d'Algérie. Mais contrairement aux mémoires de la Deuxième Guerre mondiale, où on n'examine que le cas français, ici, il faut voir, donc montrer un peu les parallélismes éventuellement, les liens, à la fois le côté français et le côté algérien. Et du coup, moi, je pense qu'il vaut mieux éviter un plan qui traiterait, un, la France, deux, l'Algérie. Et pour le coup, j'ai un plan chronologique, voilà, en trois parties.
Avec des sous-parties qui mettent en relation la France et l'Algérie dans chacune de ces périodes chronologiques.
Voilà, avec une ou deux exceptions, mais effectivement, qui comparent l'évolution en France, l'évolution en Algérie.
Alors, je vous laisse commencer.
Merci. Alors, en introduction, en fait, en accroche, j'ai choisi de commencer avec la figure de Benjamin Stora. Voilà, commencer avec une personne qui incarne un peu les différentes facettes du sujet. Benjamin Stora, d'abord en tant que pied noir, qui est parti d'Algérie en 62 alors qu'il avait 12 ans. Et il relate cette expérience dans Les Clés retrouvées en 2015. Donc là, on est du côté de la mémoire, hein, même s'il aborde ça avec son regard d'historien, évidemment. Deuxièmement, Benjamin Stora, en tant qu'historien spécialiste de la colonisation de l'Algérie et pionnier même de la question des mémoires du conflit, qui publie La gangrène et l'oubli en 1991. Maintenant, du coup, on est du côté de l'histoire, avec toujours la même personne. Et enfin, en tant que personnalité publique, qui, à cause de ses prises de position, notamment sur des questions mémorielles, comme le débat en 2005 sur le projet de loi relatif à... au caractère positif de la colonisation, se retrouve menacée et se retrouve au cœur de ces débats. Et donc cette figure de Benjamin Stora, qu'on peut évoquer brièvement en introduction, hein, il ne faut pas la développer trop, mais permet de montrer les différentes facettes du sujet et d'amener ensuite une chose très importante qui est les définitions, en fait. Il est important pour les élèves qu'ils définissent le sujet, d'autant plus important ici que c'est un sujet qui emploie des notions. Plusieurs notions qu'il faut savoir articuler, montrer les liens entre
elles. Histoire et mémoire.
Exactement. Et alors, on peut, avant les définitions, brièvement cadrer le sujet pour dire que c'est au sujet d'un événement fondateur et traumatique pour l'Algérie comme pour la France, la guerre d'Algérie, entre 1954 et 62. Mais je pense qu'il ne faut pas en dire plus là-dessus. Et donc, passer aux définitions. Donc, tout d'abord, la mémoire, donc un rapport subjectif au passé, un rapport qui peut être individuel ou collectif, même si dans le sujet, on tendra plutôt à traiter les mémoires collectives portées par des groupes de porteurs de mémoire, et des mémoires qui sont nécessairement plurielles. Voilà. Face à ça, l'histoire, donc la discipline qui veut élaborer un récit vrai sur le passé par l'analyse critique des sources, et qui, elle, tend à l'objectivité. Et dans l'introduction, on peut peut-être déjà dire que, en apparence, il semble y avoir opposition entre les deux, puisque les mémoires, ce serait chacun porte sa vérité, son souvenir de l'événement, et la mémoire, ce serait au contraire la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est de peut-être tout de suite dire que cette opposition...
L'histoire.
Ouais. Et l'opposition est trompeuse, dans le sens où les historiens, de plus en plus, d'abord, se tournent vers l'histoire comme source, les mémoires comme source, par exemple l'histoire orale, etc. Et d'un autre côté, parce que, comme on l'a vu avec Benjamin Stora, les mémoires sont aussi un objet d'étude pour les historiens. Et donc on a cet événement, un événement grave et important dans l'histoire des deux pays, qui nous permet de voir justement les liens entre les deux. Et donc en problématique, on peut reprendre la problématique suggérée tout simplement par les programmes officiels, qui est: comment l'historien peut-il écrire une histoire du conflit dans un contexte de mémoire concurrente? Bon. Et en fin d'introduction, évidemment, on annonce son plan. Alors ici, trois parties, à peu près égales en durée. Premièrement, les années 60-70 avec une volonté de contrôle des mémoires. Deuxièmement, les années 80-90 avec un temps de résurgence et de conflit mémoriel. Troisièmement, les années 2000 à nos jours, avec une période plutôt marquée par à la fois des apaisements et des tensions, des recherches de consensus et des débats toujours actifs.
Et par exemple, l'histoire de la photo dont on a parlé en ouverture de cette émission va donc très bien dans la deuxième partie, effectivement.
Absolument, ou dans la troisième.
La renaissance du 17 octobre 61, par exemple, comme, disons, événement qui a été redécouvert et qui s'est ensuite imposé dans la société.
Absolument. Et alors, j'ai pris un autre exemple, mais ça peut être tout à fait intéressant pour un élève d'avoir un exemple, alors pas un seul, mais un exemple filé. Par partie, qui permet de montrer les évolutions, puisque c'est tout l'intérêt du sujet.
D'accord. Alors, première partie,
les années 60-70, une volonté de contrôle. Première sous-partie en France, où ce qui domine, c'est plutôt le tabou d'État. C'est ce dont on ne parle pas. Alors, il faut expliquer ça d'abord par le contexte. C'est la perte de l'Empire, c'est une défaite, une humiliation. C'est aussi une période qui menace les valeurs républicaines, avec la torture, avec les coups d'État ou tentatives de coups d'État. Et donc, il y a une volonté de tourner la page et d'apaiser, d'assurer la paix civile. Alors, par quels moyens? D'abord parce que, dans une période où on survalorise la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Première Guerre mondiale, à l'inverse, la guerre d'Algérie n'a ni commémoration, ni monument. Bon, deuxième chose, c'est qu'on perpétue le langage de la guerre elle-même. Ça n'est pas une guerre. Elle n'est pas évoquée comme guerre, c'est toujours les événements, le maintien de l'ordre, quand on en parle encore. Et enfin, parce qu'on vote des lois d'amnistie successives, de 62 à 82, pour les militaires, pour l'OAS, pour y compris les généraux putschistes. Ce qui montre cette volonté de tourner la page, en quelque sorte de cacher sous le boisseau. Et l'exemple qu'on peut prendre ici, que je filerai ensuite, c'est celui de la bataille d'Alger, le film, qui connaît un sujet critique, une réception critique très positive à l'étranger, à la Mostra de Venise par exemple, mais qui en France est censuré, subit des tracasseries administratives, et finalement retiré des écrans quand il paraît à cause de pression de groupes notamment ex-OAS, etc.
Et puis vos élèves ou les élèves veulent en savoir plus sur ce film La Bataille d'Alger et sur sa mémoire, un documentaire a été réalisé très récemment dans la Fabrique de l'Histoire, il a été conçu par Séverine Uniata, on peut l'écouter pendant une heure, donc on explique l'histoire de la mémoire de ce film et comment il est devenu une sorte de film emblématique de du conflit de mémoire entre la France et l'Algérie.
Oui, absolument. Alors, deuxièmement, en Algérie, deuxième sous-partie, c'est au contraire, c'est ce dont on parle sans cesse, mais d'une certaine manière, c'est le mythe fondateur. D'abord parce que la guerre d'Algérie fonde la nation, mais aussi parce que c'est elle qui légitime le pouvoir du FLN. Alors à quoi le voit-on ? D'abord parce qu'en guerre d'Algérie, il y a la fête nationale du 5 juillet, mais il y a aussi le 1er novembre. Qui est la Toussaint Rouge.
L'anniversaire du déclenchement.
Voilà, et qui justement valorise le rôle exclusif en quelque sorte du FLN. Mmh. Deuxièmement, parce que on valorise une mémoire héroïque, celle du FLN, de l'armée, du million de morts, qu'on qualifie de martyrs avec un langage religieux, hein, et avec ce côté un peu intouchable de cette mémoire-là. Dans les années 70, il y a un centre national d'études historiques qui est créé, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, qui a pour charge d'écrire une histoire officielle. Bon. Et enfin, à l'inverse, alors il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on ne dit pas, ou alors il y a ce qu'on transforme. Et c'est la figure, par exemple, on peut en prendre une, de Messali Hadj, pourtant présent bien avant le FLN, et qui justement leur fait de l'ombre, et qui est officiellement présenté comme un traître. Bon. Et on peut finir cette sous-partie avec l'exemple de la bataille d'Alger, qui, contrairement à la France, est un film quasi-officiel, qui bénéficie de tout le soutien des autorités, et qui est montré, remontré dans les établissements scolaires, et ce qui montre bien cette mémoire très différente des deux côtés de la Méditerranée. Alors, en dernière sous-partie ici, un passage pour montrer que, malgré cette volonté de contrôle des autorités, il y a des groupes de porteurs de mémoire qui cherchent à se faire entendre dans ce contexte. Difficilement, mais qui tout de même... essaye de porter leur vision des choses. Premièrement, en France, par exemple, les Pieds Noirs, qui réclament indemnisation, notamment, et qui font pression sur les autorités, mais qui aussi maintiennent une mémoire qu'on a appelée la nostalgérie, hein, une mémoire idéalisée de la période algérienne, transmise par exemple par différents biais dans la création culturelle. On peut penser à la chanson d'Enrico Macias. Les harkis également qui luttent contre l'oubli dans les années 60-70, et enfin les appelés, ceux qui ont fait leur service et qui se retrouvent pris, eux, entre d'un côté une mémoire honteuse, c'est la sale guerre dont on ne veut pas parler, contrairement à la gloire des résistants de la Première Guerre mondiale, et d'un autre côté, on veut faire reconnaître la guerre pour faire reconnaître les droits qu'ils réclament par rapport à ça.
Ça, c'est la première partie, donc oui. Qui s'arrête à quelle date chronologiquement ?
Alors, on peut prendre le début des années 80, avec par exemple 1982 en Algérie, le monument, le flambeau des martyrs, qui est érigé et qui termine un peu cette première période. Voilà.
Alors, deuxième partie ensuite ?
Deuxième partie, les années 80-90, avec comme idée principale le temps de la résurgence des mémoires. Alors, première sous-partie, en France, des débats mémoriels. Alors, d'abord un point avec le contexte qui explique des évolutions. D'abord, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération plus détachée du conflit, ce qui sera le cas aussi en Algérie. Ensuite, c'est en France le poids croissant du Front National, fondé en 72 par d'anciens, entre autres, de l'Algérie française, et pour qui la question est importante. Et ces derniers éléments, c'est aussi en France une génération de jeunes issus de l'immigration, dont de nombreux enfants d'Algériens, qui s'affirment dans les années 80, on peut penser à la marche des beurs par exemple, et pour qui la question de la mémoire est aussi importante. C'est celle de leurs parents, c'est ce dont ils n'entendent pas forcément parler à l'école. Et donc, ce contexte-là explique des évolutions. Tout d'abord, par exemple, en 83, la guerre d'Algérie entre dans les programmes scolaires, justement. En 1992, Si on passe du côté de la recherche historique, le ministre de la Défense ouvre les archives militaires aux chercheurs. Et enfin, en 1999, il y a une reconnaissance politique à l'Assemblée nationale de la guerre comme guerre, effectivement. Dans cette période, on voit se multiplier des travaux d'historiens qui existaient avant, mais là, il commence à y avoir vraiment de plus en plus d'historiens qui travaillent dans ce champ. Ça se voit, par exemple, avec 1988, le premier grand colloque en France sur la recherche sur la question. Mais on voit par ailleurs que c'est un sujet qui fait débat dans la société. Alors un exemple pour l'illustrer, c'est le cas par exemple des recherches de Jean-Luc Enaudi, qui est un historien, alors qui n'est pas un universitaire, mais qui publie en 1991 La bataille de Paris, justement sur le sujet qui a été traité à l'instant dans le documentaire.
Le 17 octobre 61.
Exactement, et qui tente de compter le nombre de victimes, qui désigne des responsabilités, la préfecture de police, et il est pour ça attaqué par Maurice Papon en diffamation.
Ancien préfet de police.
Exactement. Et qui et Jean-Luc Enaudi gagne son procès. Et ce qu'on voit de nouveau ici dans avec cet exemple du procès, c'est justement le fait que désormais on en parle en place publique et qu'il y a des réactions publiques qui appellent à plus de lumière sur la question.
J'imagine une deuxième sous-partie pour la
sur
mémoire
l'Algérie.
Algérienne.
Exactement. Alors, en Algérie, on peut parler d'une ouverture timide avant la période de la décennie noire. Alors, de nouveau le contexte, une nouvelle génération qui n'est pas liée au conflit, qui ne l'a pas connu ou qui était très jeune, pour qui le conflit ne représente pas la même chose, qui vit dans un pays en crise économique, qui est insatisfaite également d'un verrouillage du pouvoir par le FLN. Deuxième chose qui fait un peu bouger la situation en Algérie, c'est également des expressions, notamment lors du printemps berbère au début des années 80, où, entre autres revendications, on demande à ce que le discours sur la guerre d'Algérie fasse une place aussi dans la mémoire à la participation très active des Kabyles dans le conflit. Au niveau du pouvoir, on voit à la fois des évolutions et toujours le maintien de cette version officielle. C'est le monument, le flambeau des martyrs, érigé en 82. Mais dans les évolutions, on voit une ouverture, alors à partir de 88 en particulier, davantage de liberté d'expression, des possibilités de publication des historiens. Mais cette période se referme bien vite avec le début de la guerre civile en 1992. Et dans cette guerre civile, ici, on voit que la mémoire joue encore un rôle, puisque du côté des islamistes, on qualifie le FLN de parti de la France, et donc on réactive un peu les catégories de traîtres qui existaient pendant la guerre d'Algérie, alors que du côté du FLN, les islamistes, on voit parfois le fait qu'ils sont qualifiés de descendants de Harki, hein, en reprenant ces idées-là. Et certains historiens, par exemple... Mohamed Harbi, historien algérien mais qui travaille en France, lui estime que le degré exceptionnel de violence de la guerre, les violences envers les victimes civiles en particulier, peuvent s'expliquer, entre autres, par ce discours très biaisé, très particulier du FLN sur la guerre d'Algérie, qui à la fois, d'un côté, tait certaines violences entre Algériens, ne veut pas reconnaître l'élimination des opposants algériens pendant la guerre d'Algérie, et d'un autre, valorise toute violence envers le colonisateur parce qu'elle est légitimée par la lutte pour l'indépendance.
Une troisième sous-partie pour cette deuxième partie ou
pas?
Bon, on passe donc première sous-partie en trois sous-parties.
Deuxième
avec deux, voilà. Et ensuite on passe à la troisième.
Et la troisième, donc les années 2000 à nos jours, période marquée par à la fois des signes d'apaisement et des signes des tensions persistantes, hein, qui montrent que ce n'est pas une question simple. En France, d'abord, on voit qu'il y a une volonté d'arriver à un consensus qu'on voit par l'évolution du discours officiel. Ou des positions officielles. Par exemple, en 2002, un monument est inauguré qui se situe quai de Branly, alors qui n'est pas exclusivement dédié à la guerre d'Algérie. On voit donc un geste officiel, mais qui montre aussi des limites. C'est un monument qui est discret, qui n'est pas dans un lieu très fréquenté de Paris, qui n'a pas une position centrale. Deuxième chose, on voit de la part, on voit au sommet de l'État, de la part des présidents, des prises de position, des déclarations successives que certains jugent trop timides, incomplètes et insatisfaisantes, mais on voit néanmoins les présidents Sarkozy, Hollande, Macron faire des déclarations sur la guerre d'Algérie, sur le massacre de Charonne, sur, et on finira avec ça, la mort de Maurice Audin, qui à chaque fois reconnaissent un peu plus la responsabilité de l'État. Et cette, on voit à la même période les publications historiques qui se multiplient, qui jouent peut-être un rôle d'aiguillon justement dans ce débat. On peut citer notamment le travail de Raphaël Branche sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, qui examine justement cette question et qui pose comme thèse centrale que la torture n'était pas occasionnelle, mais était véritablement un système qui était connu au plus haut niveau de l'État. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a toujours des tensions à ce sujet en France. Tensions, par exemple, au sujet d'une date officielle de commémoration. Mmh. Elle est décidée en 2012 et on opte pour le 19 mars, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu et des accords d'Évian. Mais cette date...
Elle est contestée.
Elle est contestée en particulier dans le Sud, où on voit dans certaines villes, des villes où on trouve de nombreux pieds noirs qui se sont installés, de nombreux harkis qui pèsent politiquement au niveau local.
Et qui disent qu'après le 19 mars, il y a eu encore des massacres.
Exactement, encore des massacres et qui ne se reconnaissent pas dans cette date. Qui vont demander à ce qu'il y ait d'autres monuments au niveau local, qui vont célébrer d'autres dates, voire qui vont faire pression pour débaptiser certaines rues. C'est le cas à Béziers en 2015, où la municipalité de Robert Ménard débaptise une rue du 19 mars qui devient la rue Élie de Saint-Marc, donc un des militants de l'OAS. Donc ce n'est pas un geste anodin. Et ça montre ces tensions qui sont persistantes. On peut citer d'autres exemples, le procès Osarès par exemple, ses déclarations sur la torture dans Le Monde et dans ses mémoires aux services spéciaux. Voilà, un exemple bien développé peut valoir mieux que plusieurs. En Algérie, deuxième sous-partie, on est dans une période où la mémoire est mise au service de la réconciliation. Bouteflika arrive au pouvoir en 99, il est élu, et il vise bien évidemment, on est sur la fin de la guerre civile, mais il vise à utiliser la mémoire pour réconcilier. Entre autres gestes, ce qu'on voit, c'est par exemple en 2007, l'aéroport de Tlemcen, donc la grande ville de l'ouest algérien, est rebaptisé Tlemcen Messaliage, auquel on redonne une réhabilitation. L'aéroport de Oran en 2012 devient l'aéroport Ben Bella. Mais en Algérie, certains critiquent ces gestes comme étant des gestes très insuffisants, parce que si on réhabilite quelques figures célèbres, le discours dans le fond ne change pas. Les autres groupes qui ont milité à côté du FLN ne sont pas reconnus. On maintient un discours sur les traîtres, etc. On voit
par exemple que le discours sur les harkis est encore extrêmement dur.
Absolument.
Toujours aussi radical.
Rien ne bouge sur cette question.
Et rien ne bouge à ce moment-là sur ces questions-là.
Et par ailleurs, on voit que dans l'enseignement se maintient cette version hagiographique du FLN, des martyrs, etc., du million de morts. Mais bon, c'est évidemment aussi une question politique qui est liée aux militants eux-mêmes, aux vétérans, à leurs enfants. Donc elle est complexe à régler pour le pouvoir.
Et on pourra d'ailleurs écouter, là aussi, dans la même série que l'émission dont je parlais tout à l'heure, effectivement, dans la série Algérie que nous avons faite il y a très peu de temps, une émission consacrée justement à ces mémoires algériennes du conflit et de la guerre d'Algérie. Ça permettra peut-être aux élèves d'en savoir un peu plus, justement, et d'avoir d'autres exemples.
Oui, pour ceux qui s'y intéresseraient, qui auraient envie de creuser sur la question. Et dernier point, alors ici, c'est dernière sous-partie, où je pense qu'il est intéressant de montrer comment la mémoire joue aussi dans les relations entre France et Algérie. De ne pas seulement séparer des deux côtés de la Méditerranée, mais montrer que c'est aussi un objet de tension ou d'efforts de réconciliation. Alors, dès 1962, les liens qui s'établissent plutôt entre les deux États, la question de la mémoire est au centre. On voit par exemple en France, comme je l'ai évoqué, les pieds noirs qui font pression politiquement pour obtenir du pouvoir des indemnisations, pour obtenir des réparations par rapport à ce qui a été perdu en Algérie. Question que pendant longtemps le pouvoir français a éludé parce que c'était justement problématique dans les liens avec l'Algérie. Deuxième chose, c'est qu'on voit que du côté algérien, il y a une exigence persistante de demande d'excuses, de reconnaissance officielle, de réparation, alors réparation morale plus que économique par exemple ou financière, d'accès aux archives françaises pour identifier des victimes. Et du côté français, on voit des avancées dans certains gestes gestes officiels. Alors, il y a des gestes officiels que j'ai évoqués en France, mais il y a aussi des gestes qui tiennent plus de la diplomatie. En 2005, l'ambassadeur de France en Algérie reconnaît la participation, enfin le rôle plutôt de la France, la responsabilité dans les massacres de Sétif, Guelma et Kerata, alors qui est de 1945, que certains historiens considèrent comme la date du début de la guerre d'Algérie. En 2015, on a un geste peut-être encore plus fort avec le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, qui se rend en Algérie cette fois-ci pour les 70 ans, les commémorations des 70 ans de ces massacres, pour reconnaître la responsabilité française. Donc des gestes importants, des gestes forts. Du coup, en conclusion, alors la conclusion, évidemment, il y a les étapes un peu canoniques. D'abord, on résume un peu ses idées, très brièvement. Le correcteur a lu, donc ça n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Deuxièmement, on répond à la problématique, et là c'est fondamental, et je pense que c'est pas...
Donc je rappelle cette problématique, comment l'historien peut-il écrire l'histoire du conflit dans un contexte de mémoire concurrente?
Absolument, et alors je pense que pour les élèves, il peut être même bon de la réécrire telle qu'elle, de dire nous avons posé la telle question, et de la rappeler. Et donc de montrer ici que les historiens peuvent écrire dans ce contexte, que les historiens examinent et expliquent l'évolution de ce contexte, mais plus encore ici que l'histoire peut-être permet de sortir d'un affrontement stérile entre des mémoires qui sont concurrentes, où chacun a sa vérité, et que c'est peut-être justement le travail des historiens qui permet de dépasser cet affrontement-là, et ces tensions dans les sociétés. Et en ouverture, puisqu'on demande aux élèves de faire une ouverture, et c'est souvent quelque chose qui les angoisse un peu, c'est qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut peut-être ici se fonder sur des événements d'actualité récente. Ça peut être intéressant d'ouvrir sur l'actualité. Alors attention à ne pas en faire trop, parce que l'actualité et l'histoire sont des choses différentes. Mais on peut prendre là aussi deux événements pour rester dans le côté français, le côté algérien. En France d'abord, c'est en 2018, la reconnaissance par Emmanuel Macron... en tant que président de la République, évidemment, du rôle de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Et au-delà de ça, de l'existence d'un système qui était celui de système de la torture, arrestation, etc. Et d'un autre côté, le fait que très récemment, lors des événements qui ont mené à la chute de Bouteflika en Algérie, des manifestations de ce nouveau printemps arabe, on a vu brandis dans les manifestations des portraits qui sont ceux, justement, que le FLN, de personnalités que le FLN ne voulait pas reconnaître. Krim Belkacem, Messali Hadj, Maurice Audin aussi. Et qui montre bien que ces questions de mémoire, bien que les générations aient passé, restent d'actualité, mais que chaque génération les reprend, en l'occurrence, les réactualise sur les questions du moment.
Et donc il s'agit bien, dans une copie comme celle-ci, comme d'ailleurs celle sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, de réfléchir à la façon dont l'histoire percute les sociétés au fur et à mesure de la distance entre l'événement originel et le contemporain, percute les sociétés, débat avec elles, provoque des débats, ou au contraire, comment les sociétés relancent les débats à l'intérieur d'un débat public à partir des événements d'histoire qui pourtant sont très éloignés ou assez éloignés.
Oui, et pour revenir à la question que vous posiez au début sur l'intérêt de la question, est-ce que c'est un chapitre qui intéresse les élèves ? Je pense que c'est justement pour ça que c'est un chapitre qui potentiellement est très intéressant pour les élèves, parce que justement, parfois les élèves ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tel chapitre, quel est l'intérêt d'étudier telle chose, parfois très ancienne. Et là, évidemment, on a un exemple qui permet de saisir très directement comment on se réapproprie une histoire, comment on fait l'histoire, et comment ces débats-là peuvent soulever des débats, comme on l'a vu avec différents exemples, comment à la sortie de Hors-la-loi de Rachid Bouchareb en 2010, on a des prises de position politiques, parfois très violentes, qui disent, voilà, c'est le discours du FLN qui se perpétue, on valorise les terroristes, et donc de comprendre, d'avoir des clés, enfin c'est de toute façon toute la perspective des programmes actuels et je pense de toute façon, enfin y a rien de très nouveau là-dedans, mais des programmes d'histoire en général et de l'histoire pour les élèves au lycée, au collège et à l'école, c'est comprendre le monde contemporain.
Et donc montrer par exemple une chanson comme celle qui a été écrite pendant la guerre d'Algérie, qui a été signée Boris Vian, la chanson du déserteur, peut avoir été réinterprétée de façon très régulière, et donc devenir une sorte de hymne pour tous ceux qui ne veulent pas faire la guerre, comme le disait Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé.
Merci donc à vous d'être venu justement pour nous expliquer, Joseph Visser, ce qu'était cette préparation. L'avantage d'être toujours sur les réseaux sociaux comme c'est mon cas, eh bien c'est que certains auditeurs, comme le très bon dessinateur Jacques Ferrandez, dessinateur justement de l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, me dit que Élie de Saint-Marc n'était pas militant de l'OS. Il a soutenu le putsch, mais il n'a jamais été membre de l'OS. Mais à part cela, effectivement, merci pour cette préparation et pour ce plan de composition autour de l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, en présence de vos élèves que nous remercions d'être venus ici dans ce studio, parce qu'ils ont été d'abord très à l'écoute et ils sont très intéressés par ce thème. Vous pouvez bien entendu réécouter l'ensemble de cette émission sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également réécouter les émissions précédentes, des années précédentes autour de ces questions, ainsi que dans d'autres disciplines, l'économie, la philosophie, les émissions préparées par les autres émission de savoir et de connaissances de France Culture. Céline Leclerc et Marion Dupont ont préparé cette émission. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation vendredi, puisque nous n'allons pas d'émission demain jeudi en raison de la messe de l'Ascension. Vendredi, nous parlerons brièvement de la mémoire de la résistance aujourd'hui avec l'historienne Cécile Vaste.